Europe 1.
Europe 1,
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Je voudrais vous mettre en garde au sujet de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire de Christian Quesada, le champion le plus célèbre de toute l'histoire des jeux télévisés. 192 victoires d'affilée dans les 12 coups de midi de TF1. L'histoire donc d'une encyclopédie vivante. Vous pourriez être tenté de dire « Bon là là, l'histoire d'un type qui joue à un jeu de TF1, ça m'intéresse pas ». Eh bien vous auriez tort, parce que c'est avant tout l'histoire de Christian qui est là, et que je salue. Bonjour Christian.
Bonjour Christophe.
Votre histoire, c'est l'histoire d'un génie, d'un surdoué, mais aussi d'un immense inadapté social. Et donc, il y a du brillant, du clinquant dans votre histoire. Mais il y a aussi beaucoup de souffrance sans le jeu télévisé. On va le voir, vous auriez pu terminer votre vie par un drame, vous n'y êtes pas passé loin. La drogue, l'alcool, la rue, vous avez connu tout ça. Vous racontez tout dans un livre sorti en 2017 aux éditions Les Arènes, qui s'appelle Le Maître de Midi. Et c'est évidemment sur ce livre que je me suis basé pour ce récit absolument incroyable. Une histoire que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation de l'excellente Céline Le Braz.
14h-15h, on de la raconte sur Europe 1.
Venez avec moi. Je vous emmène en 1973 dans la classe de cours moyen 2 de l'école primaire Noyer-Doré à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Venez avec moi pour voir le phénomène. Vous le voyez là ? 9 ans. Un singe savant. Quesada, cite-moi 5 villes de Suède. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala et Västerås. Et tout ça avec l'accent suédois, s'il vous plaît.
C'est tout, Christian ? Bah, vous avez dit 5 villes, monsieur. Mais sinon, il y a aussi Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping et Nyrköping.
Incroyable ! Un homme de 9 ans qui vous sort des trucs pareils et qui, à part ça, sait dire « bonjour, ça va » dans presque toutes les langues de la planète. Il est comme ça depuis le cours préparatoire. Chaque leçon, chaque poésie, chaque mot prononcé par l'instituteur trouve sa place dans mon cerveau. Je retiens absolument tout, sans la moindre difficulté. Du coup, on lui fait sauter la classe de CE2. Et depuis chaque année, Christian est consacré meilleur élève de son école primaire.
Ça y est, maman, je suis encore premier de la classe.
Tiens, voilà l'occasion de vous présenter sa famille. Des pieds noirs d'origine espagnole, rapatriés d'Oran, en Algérie. Il débarque en 62 à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Le père bosse à la RATP et la mère, bah c'est un peu Marthe Villalonga, vous voyez, avec l'accent mi-couscous, mi-paella. Ils sont 4 garçons, Marc, Roger, Patrick et Christian, le petit dernier. Et depuis tout petit, 5 ans, 6 ans, il retient tout ce qui se passe. À 5 ans, par exemple, il assiste au premier pas de l'homme sur la Lune, en direct à la télé. Il demande à son frère.
« Dis Marc, c'est quel jour aujourd'hui et c'est quelle heure ?»« Nous sommes le 21 juillet 1969. Hein. Il est 3h56 du matin. »
Eh bien, c'est enregistré. Définitivement enregistré. Du coup, les grands frères passent leur temps à lui faire des quiz. En conséquence de quoi, il connaît la vie et le parcours des 300 joueurs du championnat de France de football. Et il peut réciter dans l'ordre la liste de tous les vainqueurs du Tour de France. Et maintenant, il s'est mis à apprendre le Larousse par cœur. Il commence gentiment par la lettre U, 450 mots seulement. Il enchaîne avec la lettre G, 1976 mots. Et puis carrément la lettre A, 4992 mots. Depuis que j'ai découvert le plaisir de mémoriser toute la journée, je joue dans ma tête avec des centaines d'informations que j'emmagasine. Ma mémoire est toujours en mouvement, active presque 24 heures sur 24. Mais le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, passer l'école primaire, au collège, ça va plus. Depuis qu'il est entré en 6e, il enchaîne les « peut mieux faire ». Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il fait le tri. Le français, l'histoire et la géographie, ça le branche. Mais les maths et la biologie, niette. Et donc il sèche les cours. Et il finit par rater son brevet des collèges. Christian est inadapté à l'école. passe quand même en seconde. Mais il redouble. Et ça ne s'arrange pas quand à 15 ans, il se met à fumer des pétards. Et avec ça, un look, mamma mia. Des cheveux longs, des mitaines en laine, un grand manteau noir, un billet de 1 dollar en boucle d'oreille et des poupées Barbie agrafées à sa chemise. Un mec très bizarre qui finit par se faire exclure de son lycée, définitivement. Sans d'ailleurs que ses parents s'émeuvent plus que ça.
Bah, s'il veut pas, il veut pas. C'est comme ça, c'est tout.
En quelques années, Christian a réussi l'exploit de passer d'élève brillant à marginal absolu et déscolarisé.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du plus grand champion de tous les temps des jeux télévisés, Christian Quesada. Dans le jeu Les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann sur TF1, il est resté à l'antenne pendant plus de 6 mois, 193 émissions, raflant au total plus de 800 000 euros de gains. Il sera là, tout à l'heure. Il raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions Les Arènes, Le Maître de Midi. L'histoire d'un gamin surdoué qui, dès l'école primaire, apprend par cœur le dictionnaire Larousse, lettre par lettre, mais qui, arrivé au lycée, se retrouve totalement inadapté au système scolaire et qui finit par se faire virer définitivement. Et maintenant qu'il ne va plus au lycée, Christian passe toutes ses journées enfermé dans son cagibi, à muscler sa mémoire comme un athlète de haut niveau, mais en pyjama. Il ne s'habille plus, il ne se lave plus. Le cagibi était un passage nécessaire après l'école où l'on m'a traité d'abord comme un singe savant, puis comme un neuneu. J'avais besoin de cette phase d'isolement pour me reconstruire. Et sa reconstruction ne passe pas par l'école, elle passe par le jeu. Christian se met à participer à des tournois d'échecs, puis à des tournois de Scrabble. Et tous les soirs, avec sa mère, il se colle devant l'émission des chiffres et des lettres sur Antenne 2. C'est leur petit rituel à tous les deux. Ils s'installent bien au fond du canapé. Et c'est parti. Vous connaissez le principe. Il y a d'abord les lettres, le mot le plus long.
Consonne.
Consonne.
Voyelle.
Voyelle, excusez-moi.
Et puis il y a les chiffres. Le compte est bon.
Première, rangée.
Deuxième.
Quatrième.
Troisième.
Deuxième.
Première.
Et devant l'écran, Christian est toujours meilleur que les candidats. Toujours. Et ça l'agace, sa mère, qui cherche de son côté. Écoute, mon chéri, ça suffit maintenant. Il faut que tu ailles, toi aussi. Comment ça? Ben oui, tu es plus fort qu'eux. Alors vas-y, inscris-toi. Seulement voilà, au même moment, son grand frère Marc, qui a toujours été son point de repère, se met à dérailler. Il tombe dans la maladie mentale, psychose paranoïde. Ça n'était plus qu'une ombre qui longe les murs, suivie d'une carcasse dégingandée, vêtue d'un pyjama en lambeaux, avec des croûtes sur le visage et sur les bras. Un zombie. Et un jour, en mars 1985, Marc se jette du cinquième étage. Christian descend les marches en courant, il le retrouve étendu par terre, en pyjama, pieds nus, le regard accroché aux nuages.
Marc ! Marc, tu m'entends ? Mais pourquoi t'as fait ça, Marc ?
Marc a laissé un mot lapidaire. Pardon, merci pour tout. À partir de ce moment-là, c'est pour lui, c'est pour Marc qu'il va réussir. C'est pour lui qu'il veut devenir champion de France des chiffres et des lettres. Il s'entraîne jour et nuit. Sur la couverture de son bloc-notes, il a écrit « Be the best », soit le meilleur. Et fin 1985, il passe la sélection au siège d'Antenne 2. Et là, il se retrouve à 21 ans, au milieu de mamies aux joues bien poudrées et de quelques jeunes cadres à lunettes et vestes en tweed. Il est sélectionné et il attend qu'on le convoque. Sa première télé a lieu en juin 1986 et il épate tout le monde.
Christian, c'est à vous. 8 lettres. Diadoc. D-I-A-D-O-Q-U-E. Christian, c'est à vous.
Oui, cette lettre. Jabloire. J-A-B-L-O-I-R-E. Christian, c'est à vous. En cette lettre, duramen. C'est la partie centrale d'un tronc d'arbre. D-U-R-A-M-E-N. Non seulement il trouve des mots que personne ne connaît, mais il en donne la définition. Et en plus, devant 7 millions de téléspectateurs, il se met à faire le malin. Il veut marquer les esprits. Alors il fait des blagues. Un jour, il amène un hippopotame en plastique qu'il pose sur la table devant lui. Ça le grise, tout ça. Il veut qu'on se souvienne de lui. Là-dessus arrive le service militaire, en Allemagne, à Speyer, en Rhénanie-Palatinat. Oh, que c'est pas fait pour lui, ça. Il se retrouve à remplir des fiches d'appelés et à les classer par ordre alphabétique.
Ton prédécesseur était une tâche. J'espère que tu feras mieux.
L'adjudant-chef lui avait donné la journée. En une heure, il a fini. Et puis un jour, il est convoqué par Antenne 2 pour participer à la sélection du trophée des champions des chiffres et des lettres. Le championnat de France, si vous voulez.
Mon colonel, j'ai besoin de prendre des congés. Vous vous foutez de moi, Quesada. Vous avez vu le nombre de jours de mitard que vous avez? Ah mais mon colonel, c'est très important. Je suis convoqué pour la sélection de la finale de l'émission des chiffres et des lettres à Monaco.
Bon, entendu. À une condition, Quesada. Vous parlez de la caserne dans l'émission.
Il passe les quarts de finale à Paris et il revient devant le colonel.
Vous avez respecté votre promesse, Quesada?
Oui, mon colonel. Mais j'ai besoin d'autres jours de congé parce que j'ai gagné.
Ah, parce qu'en plus, vous avez gagné.
Et le voilà en finale, en prime time, en février 1987.
A, A, C, E, L, N, S, S, Y. Denis, 7 lettres. Christian, 8 lettres. Analyse au pluriel. A-N-A-L-Y-S-E-S.
Et le voilà, champion de France des chiffres et des lettres, à 22 ans et 9 mois. Mais ça ne lui suffit pas. En 1989, il rafle le master des chiffres et des lettres, qui oppose les meilleurs joueurs de l'histoire de l'émission. Et à l'été 91, la Coupe des clubs par équipe. Et voilà, maintenant on le reconnaît dans la rue. Et les filles se pendent à son cou. Le jeu lui a rapporté de l'argent, c'est la vie facile. Et quand il vient à manquer, eh bien il participe au jeu télévisé Motus. 25 000 francs. Et à que le meilleur gagne. 20 000 francs, plus les cadeaux. Et il décroche un job d'animateur de soirée-jeu à la ludothèque et dans une maison de quartier d'Antony. 7 400 francs par mois en CDI. Il serait peut-être temps de quitter le nid maternel, non ? Christian.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du plus grand champion de tous les temps des jeux télévisés, Christian Quesada. Dans le jeu Les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann sur TF1, il est resté à l'antenne pendant plus de 6 mois. 193 émissions, raflant au total plus de 800 000 euros de gains. Il sera là tout à l'heure. Et il raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions Les Arènes, Le Maître de Midi. À l'école primaire, Christian est un surdoué qui apprend par cœur le dictionnaire Larousse. Mais arrivé au lycée, il se retrouve totalement inadapté au système scolaire et il se fait virer, définitivement. Et à partir de là, il concentre toute son énergie sur les jeux télévisés. Et il devient à 22 ans champion de France de l'émission Les Chiffres et les Lettres. Christian a maintenant 27 ans. Il serait peut-être temps de quitter le nid familial, non ? La mairie d'Antony lui alloue un petit studio de 30 mètres carrés, qu'il équipe avec les cadeaux que lui ont rapportés les jeux télévisés et qu'il entreposait chez ses parents. Un four, des télévisions, chaîne IFI avec chargeur 200 CD. Il a déjà tout ça. Et à partir de ce moment-là, il devient un collectionneur compulsif. Par exemple, il collectionne des cartes téléphoniques, des télécartes. C'est la grande mode à l'époque. Il en achète, tenez-vous bien, 120 000. Un gouffre financier. Et puis un jour, il s'abonne au Minitel. Au début, pour suivre les résultats des compétitions. Et puis assez vite, il devient accro au Minitel rose. Et un jour, il s'en colle pour 22 000 francs de facture en 2 mois. Il a passé 5 heures par jour en moyenne connecté à son Minitel. Et puis dans son studio, il se met à faire la fête. Ça fume, ça boit, ça vomit sur le balcon et ça délire. Et tu sais, E.T. l'extraterrestre. En fait, ce film, il raconte la vie de Jésus, mon pote.
Ah ouais?
Oui, le garage dans E.T. Eh ben, c'est la crèche. Et puis les mecs qui le poursuivent, c'est les pharisiens. Et quand E.T. cicatrise la blessure d'Eliot en posant son doigt dessus, bah c'est la version hollywoodienne du miracle. Tu vois? Délire. Et ça dure des années comme ça, au rythme de 3 grosses teufs par semaine en moyenne. C'est lui qui rince, bien sûr. Et puis il rencontre à la FNAC, un jour, au rayon des disques, une jeune fille un peu paumée.
Ça te dirait de venir écouter un disque chez moi?
Ouais, pourquoi pas?
Comment tu t'appelles?
Alexandra. Et il tombe amoureux, et elle s'installe chez lui. Le problème, c'est que cette Alexandra n'a pas un radis, et qu'elle consomme beaucoup de cocaïne. Avec elle, Christian devient accro au sexe et à la coke. Et à 800 francs le gramme, il finit par toucher le fond de sa tirelire. À 37 ans, il se retrouve à sec. Pire, il est endetté jusqu'au cou, parce qu'il a pris des crédits consommation. Alors il finit par quitter Alexandra, et pour se refaire, il lui arrive de participer à des pokers chinois avec des gitans sur un terrain vague derrière la gare. Ah, on est loin des tournois de Scrabble du 16e arrondissement. Et le soir, entre deux rails de coke, il regarde le plafond. J'examine le chaos qu'est devenu ma vie. Je croule sous une montagne de dettes. Je n'ai plus un seul ami. Mon appartement est devenu une décharge. Pour éviter de chercher le sommeil plus longtemps, j'écrase un Lexomil dans une pelle forte. Et il finit par ne plus aller travailler. Et on lui coupe l'eau, puis l'électricité. Pour se chauffer, il fait brûler des boîtes à pizza au milieu du salon. Et comme on lui a coupé l'eau et que les toilettes sont inutilisables, il pisse dans des bouteilles qu'il aligne contre le mur. Et un jour à ce petit jeu, il se fait expulser de son studio. Et il se retrouve à la rue avec 2 sacs. Il ne veut évidemment pas en parler à ses parents et donc il échoue dans un nid à clodo derrière la station Esso d'Antony sur un matelas plein de puces et de pisse. La chute est vertigineuse. Et puis un matin, il croise Christophe, un ancien camarade de Mitard à l'armée.
Bah écoute Christian, dès que tu peux, viens à la maison. On t'héberge sans problème.
Et là, il se retape. Il se lave. Il remet des fringues propres. Il se regarde à nouveau dans la glace. Et surtout, de temps en temps, sur l'ordinateur de son copain Christophe, il se connecte sur le site de la Fédération française de Scrabble. Et là, il hume le parfum qu'il connaît bien, celui de la compétition. Il regarde les tirages et il commence à dépoussiérer son cerveau. Je sais qu'il faut que j'y regoute, qu'il n'y a qu'avec ça que je me sens vivre. Et puis Christian finit par retourner chez ses parents. Il leur raconte tout.
Mais pourquoi tu as rien dit, mon fils? On aurait pu t'aider.
Et à 39 ans, il retrouve sa chambre d'ado. Et là, je vais aller un peu vite, cette étape chez ses parents dure 3 ans. 3 ans, parsemés de quelques tournois des chiffres et des lettres, Christian devient champion de Royan en 2003. 3 ans à avaler des fiches Wikipédia sur Internet comme il avait avalé des pages du Larousse. 3 ans pendant lesquels il devient aussi accro à un nouveau jeu sur Internet, Jarnac. Il y passe des heures et il a 41 ans.
Mais tu te rends compte le nombre d'heures que tu passes sur ton écran? Mais tu vas devenir fou, mon fils.
Et puis en 2006, dans un tournoi régional des chiffres et des lettres, il rencontre Émilie. Je vous la fais courte, il se marie. Ils s'installent à Manosque dans le sud. Ils ont 2 enfants, Clément en 2009 et Robin en 2010. Et ils divorcent après 4 ans de mariage. Et Christian, devenu quinquagénaire, se retrouve chez sa mère. Il vit du RSA. Son père est mort il y a 3 ans, sa mère a un cancer. Et c'est elle qui, juste avant de mourir, à l'âge de 86 ans, lui glisse une idée qui va changer sa vie.
Christian, faut que tu ailles à la télé pour faire les 12 coups de midi. C'est un jeu pour toi, ça. Tu sais tout. Tu vas tout gagner. Hein, mon petit nounou ? Mon dictionnaire. Fais ça pour moi.
Il n'a pas joué à un jeu télévisé depuis 23 ans exactement. Alors il la regarde, cette émission sur TF1, et il voit un bandeau qui défile. Sélection des 12 coups de midi à Marseille. Il note le numéro de téléphone et il s'inscrit pour rendre hommage à sa maman.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Christian Quesada, le plus grand champion de tous les temps des jeux télévisés, célèbre pour avoir participé pendant 193 émissions de suite aux 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Il sera là dans un instant. Il raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions des Arènes, Le Maître de Midi. Je vous ai raconté son enfance d'élève surdoué, mais son inadaptation au système scolaire dès le collège. Son titre de champion de France des chiffres et des lettres à l'âge de 21 ans. Et puis sa lente dégringolade. L'alcool, la drogue, la rue. À 50 ans, Christian se retrouve chez ses parents et sa mère, avant de mourir, lui suggère de s'inscrire à l'émission de TF1, Les 12 coups de midi. Et donc, il passe le casting.
Allô, monsieur Quesada ? Oui, bonjour, c'est la production des 12 coups de midi. Vous avez été sélectionné. Félicitations. Par contre, il va falloir attendre un peu, peut-être un an, hein, avant les premiers enregistrements. On vous rappellera.
À ce moment-là, Christian gagne 461 € par mois au RSA. Il ne mange qu'une fois par jour. Il pèse 60 kilos. Il vit à Hauteville, dans l'Ain, pour être proche de ses enfants qui vivent là-bas avec leur mère. C'est ça qui le fait tenir. Et un an plus tard, on l'appelle pour l'enregistrement des 12 coups de midi à Paris. Mais il n'a même pas de quoi se payer un billet de train, et pas un radis pour acheter les 8 tenues différentes dont il a besoin pour se changer entre chaque émission. C'est son frère Roger et son ex-femme qui lui donnent un coup de pouce. Il s'achète 8 t-shirts de couleurs différentes à 2,50 € pièce. Et le jour dit, il est à 9h30 au studio de la Plaine Saint-Denis, avec au doigt la bague de sa mère. Aujourd'hui, c'est sa vie qu'il joue. Et c'est parti. Et il fait son show, comme il sait le faire.
Première question. La ville d'Istanbul est située uniquement en Europe, vrai ou faux ? Faux. Elle est partagée entre le continent européen et le continent asiatique.
Comme il répond à tout, l'animateur Jean-Luc Reichmann se faufile alors derrière son pupitre en rigolant pour vérifier qu'il ne triche pas. Et non, il ne triche pas. Et puis arrive la dernière épreuve de l'émission, le coup de maître. Et il empoche 5 000 €, 10 mois de son RSA. Alors il embrasse l'alliance de sa mère. Cette première victoire, c'est pour elle. Et il gagne les 5 émissions tournées dans la journée. Il fait ses comptes. Il vient de gagner 22 000 €. Il est le maître de midi. Il a sa loge attitrée. Il a son canapé.
Dis Christian, je t'ai pris une chambre au campanile de la Villette. Je t'appelle un taxi ? Tu gardes bien la facture, hein, on te remboursera. Ah ben je peux pas prendre de taxi. J'ai pas d'argent. Non mais t'inquiète, on te remboursera. Non, je suis désolé, je peux vraiment pas. J'ai emprunté pour venir à Paris. J'ai pas un rond et j'ai pas de carte bleue.
Alors Johan, l'assistant de l'émission, lui fait une avance de 70 € de sa poche. Et les jours suivants, il continue son marathon gagnant. 9h, 22h. À la 20e émission, il atteint les 100 000 € de gains. Et comme il est sans le sou, la production consent à lui faire une avance de 22 000 €. Et pour la 20e, Jean-Luc Reichmann fait le point avec lui, en plateau.
Alors, Christian, avez-vous un objectif précis dans cette émission ? Oui, j'aimerais bien battre le record de Bruno.
Bruno, c'est le petit génie du jeu. 80 émissions, 79 victoires, 400 000 euros de gains. Eh bien, il le dépasse. 80 émissions, 90 émissions, 100 émissions, il est toujours là. Et pour la 100e, il y a 4 millions de téléspectateurs qui le suivent sur TF1. Je suis devenu le papa, le grand frère ou le gendre idéal. Une gloire télévisuelle que je savoure d'autant plus que je sais bien à quel point elle est éphémère. Et ça continue. 120 émissions, 150 émissions, 192 émissions. Du jamais vu dans l'histoire du jeu. Il a déjà répondu à un défilé de 5500 questions. Et arrive la 193e émission le 9 décembre 2016. La dernière épreuve face à une certaine Claire.
Quel Pedro a fait tourner Victoria Abril dans Talon Aiguille ?
Almodovar !
Bonne réponse ! Christian, 2 secondes, 88 centièmes. Claire, 40 centièmes de seconde. Attention, Christian.
Oui.
Top ! Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dita Fomnis de 2005 à 2007 ?
J'ai pas compris.
Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dita Fomnis de 2005 à 2007 ? C'était Marilyn Manson. Et je le déclare aujourd'hui, à la 193e participation, Claire a détrôné Christian aujourd'hui, samedi 14 janvier.
Il a perdu, il est éliminé. Enfin, il a perdu. Il a quand même gagné 599 250 euros en 192 émissions, plus 210 142 euros de cadeaux, dont 7 voitures. Et voilà, maman, c'est fait. Après tout ce que tu as supporté, je te devais bien ça. Ça va, Christian ?
Ça va, je suis assez ému par ce récit qui est très fidèle au parcours de ma vie. C'est fort bien fait, très merci. Bien construit.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi à le réaliser.
Simon merci Veil à eux.
Et Céline Lebras, la réalisatrice. Alors évidemment, quand s'achève ce récit, on a juste envie de savoir ce qui s'est passé depuis, parce que comme on vous connaît un peu, du coup on se dit qu'il a dû cramer tout son pognon et ses démons l'ont rattrapé.
Alors il faut savoir que cette formidable aventure des 12 coups de midi arrive à un moment de ma vie où j'ai changé. Bien évidemment, la maturité a pris la place, je dirais, de l'insouciance que j'avais pu connaître avant. Et surtout la paternité. Je suis devenu papa à 45 ans, mes enfants sont vraiment ma raison de vivre au jour d'aujourd'hui. Donc non, j'ai été raisonnable et croyez-moi, tout se passe bien. Il en reste.
Il en reste. Alors, vous avez rejoué depuis, parce que ce qu'on comprend aussi de votre histoire, c'est que sans jeu, votre vie est terne.
En fait, c'est la seule chose que je sais bien faire, c'est jouer. Tous les grands événements marquants de ma vie ont été rythmés par le mot « jeu ». Je suis quelqu'un qui évolue dans un monde ludique et j'adore cela. Donc oui, tout ce qui a été de bénéfique et aussi les passages sombres de ma vie ont toujours eu un rapport avec le jeu. Et je continue de jouer tous les jours.
À quoi ?
À tout.
Trivial Poursuite, ce genre-là ?
Trivial Poursuite, je fais des compétitions de Scrabble, j'en ai encore fait une récemment à La Rochelle, je vais en faire une à Aix-les-Bains.
Ah donc on vous invite un peu comme vedette ?
Oui, alors c'est aussi une belle école d'humilité, le Scrabble, parce qu'il y a des joueurs qui sont bien plus forts que moi.
Mais donc vous perdez ? Vous jouez, mais vous perdez.
Bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Vous savez, je pense qu'un grand champion, s'il veut durer, c'est parce qu'il sait qu'il peut perdre. Et ça, j'en suis convaincu. Que vous prenez les itinéraires des plus grands champions sportifs, par exemple, ou des plus grands champions d'échecs, s'ils ont su durer, s'ils ont su gagner, c'est parce que quelque part, ils savaient qu'ils pouvaient perdre. Et c'est ce qui m'a motivé pendant ces 6 mois d'aventure et puis pendant aussi mes expériences télévisées passées. C'est savoir que je peux être le meilleur car je peux gagner, mais je sais que je peux perdre aussi.
Mais est-ce que vous êtes un mauvais joueur ? Parce que souvent, les amateurs de jeu, quand ils perdent, alors quand c'est au tennis, ils cassent la raquette, quand c'est au ping-pong, ils fracassent la raquette de ping-pong. Vous ?
Je ne suis pas spécialement un mauvais joueur au sens que l'on entend. Je ne vais pas faire valser les pièces d'échecs à l'issue d'une partie perdue. parce que je considère qu'il faut toujours donner le maximum. On peut avoir donné le maximum et être quatrième d'une compétition, être douzième, voire même être 122e. C'est pas très important.
Donc vous ne vous mettez pas dans tous vos états si vous perdez?
Non, pas du tout.
Le soir de la 193e, vous n'êtes pas au fond du trou?
Au contraire, j'ai spontanément félicité Claire, qui avait été brillante sur le coup. Et c'est vrai que j'ai tout de suite trouvé les mots pour la féliciter. Et surtout, faire le bilan de ce qui m'était arrivé, en positif.
Ce que j'ai compris aussi de votre histoire, c'est que plus que le jeu, c'est le jeu en public qui vous intéresse. Vous aimez bien faire démonstration de vos connaissances devant un public. Vrai ou faux?
C'est tout à fait vrai. J'aime bien ce qu'il s'appelle la transmission du savoir. C'est pour ça que j'ai travaillé en ludothèque et auprès des enfants, parce que j'aimais bien leur apprendre à jouer à certains jeux. Et j'aime bien effectivement cette exposition médiatique. Je m'y sens à l'aise. J'aime bien parler en public. J'aime bien avoir des fans. Donc c'est vrai que c'est tout à fait mon style de vie. Et je le répète, je crois que s'il n'y avait pas eu le jeu dans ma vie, je ne serais plus là.
Vous continuez de vous muscler le cerveau avec Wikipédia, par exemple, qui est une encyclopédie sans fin. Le Larousse, il y avait un début, une fin. Là, ça ne s'arrête jamais.
Tout à fait. C'est exactement... Les rouages de mon cerveau ressemblent aux hyperliens qu'il y a dans Wikipédia. C'est-à-dire passer d'une information à l'autre en cliquant sur un hyperlien. C'est exactement comme ça que ma mémoire fonctionnait lorsque Internet n'existait pas. Donc oui, je continue à me cultiver tous les jours. J'apprends des choses tous les jours. Mais maintenant, je le fais plus en dilettante quand même.
On va se retrouver dans un instant de l'autre côté de la pub pour reprendre quelques points de ce récit qui commence à la petite enfance. A tout de suite. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Christian Quesada, tirée de son livre « Le Maître de Midi » paru en 2017 aux éditions Les Arènes, l'histoire d'un enfant surdoué, d'un jeune homme inadapté social qui trouve une planche de salut dans les jeux télévisés jusqu'à devenir en 2016 le grand champion du jeu télé « Les 12 coups de midi » de Jean-Luc Reichmann sur TF1. 192 victoires d'affilée, 6 mois à l'antenne en continu et au final plus de 800 000 euros de gains. Je suis curieux d'entendre votre auto-diagnostic, Christian Quesada. Qu'est-ce qui vous arrive dans la vie? Vous êtes surdoué? Et tout surdoué est asocial? C'est ça l'histoire?
Dans mon cas, en tout cas, oui. Je pense que j'ai été vraiment l'exemple parfait d'une inadaptation au système scolaire français. J'ai été mis en vedette très jeune, je dirais même petit.
Par l'instituteur.
Oui, puis j'étais considéré un peu comme un singe savant. Mais à l'époque, je ne trouvais pas ça du tout désagréable, bien au contraire. Je trouvais ça même plutôt flatteur. Mais c'est vrai que les années passant, le collège a été moyen et mon arrivée au lycée a été catastrophique parce que ça ne me plaisait plus, ce rôle-là. Et effectivement, j'allais dans les cours qui me plaisaient, par exemple. Je faisais un tri énorme. Et je crois qu'effectivement, cette inadaptation au système scolaire français... Malheureusement, elle est le cas aussi pour pas mal d'enfants aujourd'hui ou d'adolescents. Et c'est vrai qu'il faudra peut-être un jour se pencher sur le sujet.
Parce que vous êtes donc surdoué, vous êtes aussi addictif. Mais peut-être que ça va ensemble. C'est-à-dire que vous êtes addictif au jeu, mais aussi addictif aux drogues, mais aussi addictif à la fête, addictif aux télécartes, addictif au Minitel Rose. Vous y collez 5 heures par jour quand ça apparaît, le Minitel Rose.
Oui, et puis quand Internet est apparu, j'y restais 14 heures par jour. En fait, voilà, je suis un boulimique d'informations et je ne me contente pas du petit, on va dire. Alors, ça peut paraître un petit peu mégalomane par moment, mais c'est ma façon d'être. C'est-à-dire que plus j'emmagasine de choses, effectivement, mieux je me sens. Et donc voilà, ça peut être une collection de télécartes infinie, puisque c'était la plus grosse de France à une époque. Et ça peut être aussi enchaîné.
Vous ne les avez pas gardées?
Non.
Vous les avez vendues?
Tout a été vendu, c'était un gouffre financier réel. Et je crois que les connaisseurs de cette collection savent de quoi je parle.
Ouais, on ne fera pas le bilan. J'ai trouvé intéressant que par deux fois, les deux exploits que vous avez réalisés, le titre de champion de France des chiffres et des lettres et ce titre de meilleur joueur de l'histoire des 12 coups de midi, vous l'avez fait pour quelqu'un. C'est pour Marc que vous faites le championnat de France, votre frère qui s'est suicidé, qui était atteint d'une maladie terrible, qui est la psychose paranoïde. Et la deuxième fois, les 12 coups de midi, c'est pour votre mère. Il faut quelqu'un pour que vous fassiez quelque chose.
Il faut un support, en tout cas, une motivation que j'ai réussi à trouver effectivement à travers tout cet amour, parce que je crois que c'est le terme principal qui me liait effectivement à mon frère aîné, et puis bien sûr à ma maman. Mon papa aussi a été très présent pour ça. Il me faut effectivement quelqu'un, une sorte de motivation extérieure, parce que sinon, moi, je suis un flemmard fini. C'est-à-dire qu'on peut dire que consacrer autant d'heures à apprendre le dictionnaire, ça peut être vain, Mais quelque part, on se dit, mais il bosse quand même à faire ça. Mais moi, non. Pour moi, c'est...
Pour vous, c'est pas travailler.
C'est du plaisir. C'est du plaisir. J'ai eu la chance. C'est vraiment un grand, grand privilège de pouvoir toujours travailler dans des domaines qui m'ont plu. Et j'ai fait quelques boulots alimentaires à une époque où ça marchait moins bien. Mais le reste du temps, j'ai toujours travaillé dans ce qui me plaît. Depuis la fin de l'aventure, je travaille dans des domaines qui me plaisent. Donc ça, c'est un énorme privilège. Mais sinon, je suis un vrai flemmard. Et je pense que la motivation pour avoir fait ces deux exploits télévisés venait effectivement de membres de ma famille.
De la même manière que vous dites d'ailleurs au tout début de cet entretien, je me suis calmé pour mes enfants.
Exactement. Exactement.
C'est assez paradoxal parce que vous semblez avoir un ego, vous le reconnaissez vous-même,
bien
vous
sûr.
Aimez être une vedette.
Oui.
Mais à côté de ça, vous n'êtes pas capable de faire les choses pour vous-même.
Non, je pense que les autres passent avant. Hein, puis c'est vrai que cette notoriété qui est quand même assez sans précédent pour un candidat de jeu télé m'apporte beaucoup, beaucoup de plaisir au quotidien, mais avant tout pour les autres, vraiment.
La question de l'argent, de l'autre côté de la pub. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Christian Quesada, tiré de son livre « Le Maître de Midi », paru en 2017 aux éditions Les Arènes, qui est l'histoire, son histoire, l'histoire d'un enfant surdoué, d'un jeune homme ensuite inadapté social, qui ne trouve qu'une seule planche de salut dans sa vie, les jeux télévisés, jusqu'à devenir en 2016 le grand champion du jeu télé Les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann sur TF1. 192 victoires, 6 mois à l'antenne en continu, et au final 800 000 euros de gains. Je n'ai pas compris avec certitude la place que prenait l'argent dans votre envie de jeu. Parce que je sais qu'évidemment, la chaîne fait mousser la notion de « il a gagné 800 000 euros ». Mais est-ce que pour vous, c'est important ?
Bien évidemment que ça donne un confort incroyable d'avoir gagné autant d'argent. Mais ce n'est pas mon moteur premier. Mon moteur premier, c'est de laisser une trace en étant le meilleur. Parce que je suis quelqu'un de compétiteur, tout simplement. Quand je vous ai dit tout à l'heure que je savais que je pouvais perdre, c'est parce que je savais aussi que je pouvais gagner. Avoir remporté les 3 titres du jeu des chiffres et des lettres, personne d'autre ne l'a fait. Être resté aussi longtemps au quotidien dans une émission télé, personne d'autre ne l'a fait. Même si c'était gratuit, ça peut paraître un peu fou de dire ça, ça m'aurait plu aussi.
Ah. C'est-à-dire qu'on... C'était ma deuxième question.
Oui, oui. C'est-à-dire que...
Mais alors, par exemple, vous avez participé au jeu des 1000 euros de France Inter qui rapporte
oui,
1000 balles.
Je l'ai fait.
Ah bon.
Voilà, et effectivement, donc c'est pas spécialement l'appât du gain. J'ai fait des jeux télé où j'avais gagné simplement des cadeaux ou des livres. Alors bien évidemment, j'ai eu la chance de participer dans un jeu qui paye très très bien, je ne vais pas m'en cacher. Mais ce n'était pas le moteur premier. Moi, quand je suis arrivé, j'avais dit, et vous l'avez très bien dit dans le récit, je voulais battre le record de Bruno. Et je l'ai dit très tôt dans l'émission. Alors ça peut paraître soit très prétentieux, soit très ambitieux, mais c'était réellement mon but. C'était de dépasser le record de Bruno. J'étais loin d'imaginer que j'allais le fracasser autant, mais c'était mon but premier. Si on m'avait dit « tu bats le record de Bruno, mais tu gagnes 100 000 euros », j'aurais dit « oui ». Et si on me dit « tu vas faire 79 émissions, pas battre Bruno, mais tu vas gagner 600 000 euros », j'aurais dit « non ».
Mais si quelqu'un reste dans les 12 coups de midi 194 fois, seriez-vous tenté d'aller le challenger ?
Non, au contraire, je serais le premier à le féliciter ou à la féliciter. Je ne referai plus de jeu télé comme candidat, c'est évident, maintenant.
Pourquoi ?
Parce que je ne retrouverai pas la même adrénaline, tout simplement, parce que je pense que je ne serai pas invité aussi dans le jeu, soyons honnêtes. Mais je ne retrouverai surtout pas la même adrénaline et je n'aurai pas cette motivation. Vous l'avez rappelé, à juste titre, une motivation par mon frère, une motivation par ma mère, pour mes enfants. Maintenant, je ne sais pas trop ce qui pourrait me motiver, à part participer à un jeu, mais de l'autre côté cette fois-ci. C'est-à-dire soit être dans l'équipe de sélection, soit faire...
Soit être le nouveau Max Favalelli.
Pourquoi pas ? Ou faire la rédaction des questions. Enfin bon, pas mal de choses qui peuvent être des opportunités. Mais comme candidat, non, c'est fini.
Je m'étonne quand même que les chaînes de télé qui sont pleines d'inventivité ne vous aient pas proposé un challenge, un face-à-face, un prime avec un autre grand champion, intelligence contre intelligence, non ?
Ça pourrait se présenter. J'ai eu la chance de faire les 12 coups de la rentrée en septembre dernier, le 8 septembre, où je n'étais plus candidat cette fois-ci, j'avais le rôle du professeur. Et donc je trouve que c'est une continuité qui est crédible. Je ne suis plus un candidat désormais, je fais partie un petit peu d'autres choses. Et moi je trouve ça très satisfaisant et c'est plutôt vers quoi je vais me diriger à l'avenir.
Imaginez que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, nous écoute. Votre histoire, c'est aussi le récit de l'inadaptation de l'Éducation nationale à des gens comme vous. Vous n'êtes pas le premier à raconter la souffrance qu'il y a pour un surdoué à ne pas se sentir bien dans le système. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le changer ?
Alors bien évidemment, je n'ai pas les compétences pour être décisionnaire là-dedans, mais moi, quelque chose qui me paraîtrait évident, je dis bien évident, c'est d'arrêter la notation scolaire surtout pour les petites classes. On n'a pas besoin de noter un élève. On peut simplement lui dire oui s'il a acquis une notion et on peut lui dire non et de la retravailler. Avoir des zéros, avoir des deux ou avoir des trois ne sert à rien.
Mais est-ce que le système peut accepter que quelqu'un comme vous qui fait le tri, donc, s'intéresse à l'histoire géo et pas aux mathématiques ? Alors on
ça
pourrait.
Ça peut paraître un peu excessif vu comme cela, mais moi je pense que pour l'épanouissement d'un enfant, ça ne sert à rien. D'une part, donc, de le noter, de le mettre en compétition, il aura bien le temps plus tard. Et ça ne sert à rien de le forcer à travailler des matières qui le rebutent. J'en suis persuadé. Ça fait maintenant plus de 10 ans que la Finlande a les meilleurs résultats scolaires au niveau mondial et ils n'ont pas de notation. Donc c'est bien que ça marche.
Est-ce qu'il y a un métier, en dehors d'animateur de jeu à la ville d'Antony, que vous pourriez pratiquer avec cette forme d'intelligence si particulière qui est la vôtre ?
Ça peut être la création de jeux, comme j'ai déjà fait avec des organes de presse et un grand quotidien. Ça peut être effectivement écrire des livres de vulgarisation de la culture générale.
Mais c'est pas du métier, ça.
Ben, ça sera mes métiers à moi.
C'est pas un métier où on arrive à 8h le matin ou on part à 18h.
Je crois que je suis pas fait pour ça.
Vous êtes sûr de ça ?
J'en suis sûr de ça.
Merci Christian.
Merci à vous.
Merci
Christophe.
D'avoir débriefé votre propre histoire qu'on retrouve dans ce livre donc, qui s'appelle Le Maître de Midi aux éditions Les Arènes, coécrit avec Nicolas Torrent. Vous avez rendez-vous avec Olivier Delacroix, vous le savez, à 15h pile. Avant ça, avec les infos, à demain, 14h.